Chapitre 5. Prisonnier. Yémin se trouvait dans un vaste abri ouvert d'un côté, sans rien pour empêcher le froid de l'hiver d'entrer. Le toit était de bonne qualité, mais les murs n'étaient constitués que de blocs de bois tout juste et carrés, empilés contre un cadre de poutres. Le box dans lequel il était assis donnait sur une allée et faisait face à un long alignement de box identiques aux siens. Les lattes qui le séparaient de ses voisins lui fournissaient une intimité quasiment nulle. Le peu de paille éparpillée au sol était censé lui servir de matelas, et dans un coin trônait un seau d'une saleté répugnante, destiné à recueillir ses excréments. Il aurait pu s'échapper sans peine s'il n'avait eu des fers aux chevilles attachés par une chaîne à un gros crampon de métal profondément enfoncé dans une poutre en bois dur. Il s'était écorché les chevilles jusqu'au sang, à vérifier que sa seule force ne suffirait pas à déloger le crampon. C'était son quatrième jour dans l'abri. Encore une journée, et si personne ne venait le racheter, on pourrait le vendre comme esclave. Un gardien enjoué le lui avait soigneusement expliqué à deux reprises, le premier et le deuxième jour de son enfermement. Il passait tous les matins avec une panière de pain, accompagné de son fils, faible d'esprit, qui poussait une carriole avec un baquet d'eau dont il donnait une ration à chaque prisonnier. La première fois, Yémin l'avait supplié de prévenir les prêtres du temple de sa situation. Il viendrait sûrement le chercher, mais le gardien avait refusé de perdre son temps. Les prêtres, avait-il dit, ne se mêlaient plus des affaires laïques. Or, les prisonniers du gouverneur relevaient du domaine laïque et n'avaient rien à voir avec ça, ni avec son culte. Si personne ne les rachetait, ils devenaient esclaves du gouverneur et on les vendait au profit du trésor. Triste fin pour une si courte vie. Le petit n'avait-il donc aucune famille que le gardien pût contacter ? Au ton patelin de l'homme, il était clair qu'il se serait fait un plaisir de transmettre n'importe quel message du moment qu'il avait une chance de toucher un pot de vin ou une récompense. La mère de Yémin devait certainement se ronger les sangs, non? N'avait-il pas de frère prêt à payer son amende pour le faire relâcher? À chaque question, le jeune garçon s'était mordu la langue. Il avait le temps, se disait-il, de résoudre seul son problème. Demander à l'homme de prévenir son père ne ferait que le ramener à sa captivité première. Ce n'était pas une solution. Une idée finirait bien par lui venir s'il réfléchissait assez. De fait, sa situation se révélait propice à la réflexion. Il n'avait guère d'autre activité possible, à part s'asseoir, se tenir debout, s'allonger ou s'accroupir sur la paille. Dormir ne lui apportait aucun repos, car les bruits des box voisins envahissaient ses rêves et les peuplaient de dragons et de serpents qui se disputaient et imploraient dans la langue des hommes, et quand il était éveillé, il n'avait personne à qui parler. Son box était adossé au mur de l'abri, et dans les box de part et d'autre du sien, les prisonniers se succédaient. Un ivrogne, arrêté pour tapage sur la voie publique, que sa femme en pleurs était venue chercher. Une prostituée qui avait donné un coup de couteau à son client et qu'en punition on avait marqué au fer rouge. Un voleur de chevaux qu'on avait emmené à la potence. La justice, ou du moins la sanction, était expéditive dans les cellules du gouverneur. Le box de Yémin donnait sur une allée jonchée de paille, et d'autres enclos s'alignaient de l'autre côté, semblables aux siens, en dehors du fait qu'ils renfermaient des esclaves et non des prisonniers. Indiscipliné et indésirable, face de carte au dos et aux jambes zébrées de cicatrices, ils ne faisaient que passer. On les vendait à bas prix et on les utilisait sans ménagement, d'après ce que Yémin voyait. Ils parlaient peu, même entre eux. Il ne devait guère leur rester de sujet de conversation. L'homme dépouillé de sa liberté n'a plus comme exutoire que l'apitoiement sur soi-même. Et ses esclaves le pratiquaient, mais avec un abattement qui indiquait qu'ils n'espéraient nul changement. Ils évoquaient à Yémin des chiens enchaînés qui passaient leur temps à aboyer. Les faces de carte de l'autre côté de l'allée centrale pouvaient rendre service pour les travaux de force ou les tâches qui n'exigeaient pas de minutie, dans les vergers ou les champs par exemple, mais guère plus. C'est du moins ce que le jeune garçon avait déduit de leur conversation. La plupart des hommes et des femmes enchaînés en face de lui étaient esclaves depuis des années, et ils étaient résignés à conserver ce statut jusqu'à la fin de leurs jours. Malgré l'horreur que l'esclavage inspirait à Yéma, il avait du mal à compatir au sort de certains d'entre eux, qui avaient manifestement accepté leur état de bête de somme, gémissaient sur leur triste destin, mais n'avaient plus la volonté d'essayer de le modifier. Les ayant observés quelques jours, il comprenait que certains fidèles de Sa considéraient que c'était la divinité elle-même qui avait décidé de leur position. Il était difficile en effet de les imaginer libres, mariés avec des enfants, un toit et un métier. Certes, Yéma ne croyait pas qu'ils fussent nés sans âme et prédestinés à devenir esclaves, mais jamais il n'avait eu sous les yeux d'individus à ce point dépourvus de l'étincelle spirituelle propre à l'humanité. Chaque fois qu'il les regardait, il sentait une terreur glacée l'envahir. Combien de temps faudrait-il avant qu'il leur ressemble? Il lui restait une journée pour trouver une solution. Le lendemain matin, on l'emmènerait au bloc de tatouage, on lui attacherait poignets et chevilles aux solides crampons, et on lui coincerait la tête dans l'étau à bourrelet de cuir. Puis, on apposerait sur son visage la petite marque qui le désignerait comme esclave du gouverneur, et, si celui-ci décidait de le garder, ce serait le seul tatouage qu'il arborerait jamais. Mais le gouverneur ne le conserverait pas. Yéma ne possédait pas de talent qui puisse l'intéresser. Il serait immédiatement mis à la vente, et dès qu'il serait acheté, une nouvelle marque, l'emblème de son propriétaire, serait dessinée à coups d'aiguille sur son visage. Il réfléchissait depuis plusieurs heures, ne sachant que choisir. S'il appelait le gardien, et que l'homme envoya un coursier au port, son père viendrait le chercher, ou plutôt le ferait chercher. Alors il regagnerait le bateau et s'y retrouverait prisonnier, mais au moins son visage demeurerait intact. S'il ne demandait pas l'aide de son père, on allait le tatouer, le vendre et le tatouer à nouveau. S'il ne s'évadait pas ou ne gagnait pas sa liberté en travaillant comme esclave, il resterait pour toujours la propriété d'un autre, en tout cas sur le plan légal. Quoi qu'il advienne, il ne deviendrait jamais prêtre de ça. Or, comme il était résolu à répondre à sa vocation et à retourner à son monastère, tout le problème se réduisait à déterminer quelle option offrait les meilleures chances d'évasion. Et, sur cette belle conclusion, ses pensées butaient en vacillant. Il n'en avait aucune idée. Il s'assit dans le coin de son enclos et tua le temps à regarder les acheteurs venus examiner les esclaves indésirables et bon marché en face de lui. Il avait faim, il avait froid, il était mal à son aise. Mais c'était sa propre indécision qui le tourmentait le plus, et ce fut ce qui l'empêcha de céder à la mélancolie, de se rouler en boule et de s'endormir. Il mit plusieurs minutes avant de reconnaître Torg, qui s'avançait lentement dans l'allée. Puis, ce fut presque avec horreur qu'il sentit son cœur bondir de joie. « C'est le soulagement, se dit-il. » Torg allait le voir et rapporter sa situation à son père, lui évitant de prendre une décision qu'il considérait comme honteuse. Et quand son père viendrait le chercher, il ne pourrait pas se moquer de lui sous prétexte qu'il l'avait appelé à l'aide. L'examen de cette réaction en aurait beaucoup appris à Yéma sur lui-même, mais il écarta fermement son esprit de cette voie, peut-être parce qu'il n'avait pas envie de se connaître aussi intimement. Il se redressa vivement, s'adossa d'un air crâne contre le mur de son box et, les bras croisés, attendit que Torg le remarque. À sa propre surprise, il éprouvait les plus grandes difficultés à patienter ainsi sans rien faire. Torg suivait à pas lents l'alignement des enclos. Il observait chaque esclave, discutait avec le gardien et concluait le marchandage par un signe d'acquiescement ou de dénégation. Le gardien cochait un rôle qu'il tenait à la main. Au bout d'un moment, Yéma commença de s'étonner. Apparemment, Torg achetait quantité d'hommes et de femmes, mais ce n'étaient pas les artisans ni les esclaves instruits dont avait parlé son père. Il se déplaçait d'un air avantageux, manifestement gonflé de son importance en tant qu'acheteur de chair humaine. Il se pavanait devant le gardien, comme s'il s'agissait d'un personnage sur lequel il devait faire impression, et inspectait les esclaves avec une superbe absence d'égard pour leur dignité ou leur bien-être. Plus Yéma l'observait, plus son mépris grandissait. Il avait devant les yeux le contrepoint du manque d'énergie et de volonté des asservis. La suffisance d'un homme qui se nourrissait de l'humiliation et de la dégradation d'autres hommes. Cependant, au cœur de l'espoir retrouvé du jeune garçon, se cachait un terrible noyau de peur. Et si Torg ne le remarquait pas? Que ferait-il alors? S'abaisserait-il à l'appeler? Ou bien le laisserait-il passer pour affronter un avenir plein d'autres Torg? À l'instant où il s'apprêtait à attirer son attention, à l'instant où il se mordait la langue pour s'empêcher de se trahir, le lieutenant lui jeta un coup d'œil, porta son regard sur l'esclave suivant et le ramena brusquement sur Yéma, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il avait vu. Il écarquilla les yeux. Puis, un sourire ironique apparut sur ses lèvres. Laissant là ses marchandages, il s'approcha de Yéma.
« Tiens, tiens !» s'exclama-t-il avec satisfaction. « J'ai bien l'impression que je viens de gagner une jolie prime. Une jolie prime !»
Il examina Yéma de la tête aux pieds, depuis les brins de paille accrochés à sa robe effrangée jusqu'au fer qui enserrait ses chevilles écorchées, en passant par son visage blême de froid.
« Tiens, tiens !» répéta-t-il. « On dirait que ta liberté n'a pas duré longtemps, le petit prêtre !»«
Vous connaissez ce prisonnier ?»
demanda le gardien qui avait rejoint Torg.
« Que oui ! Son père est mon associé. Il se demandait où était passé son fils. »«
Ah ! Eh bien, vous avez de la chance de l'avoir retrouvé aujourd'hui. Demain, il aurait payé son amende de sa liberté. » On l'aurait tatoué comme esclave du gouverneur et mis en vente.
Esclave du gouverneur.
Le sourire ironique était réapparu sur le visage de Torg et il haussa ses sourcils blonds.
Ça, c'est amusant comme idée.
Yéma avait l'impression d'entendre tourner les lents rouages de son esprit.
À combien s'élève l'amende du petit?
Demanda soudain le lieutenant au gardien. Le vieil homme consulta les nœuds d'une cordelette attachée à sa taille.
« 12 piécettes d'argent. Il a tué un autre esclave du gouverneur.
Quoi ?»
L'espace d'un instant, l'incrédulité se peignit sur les traits de Torg, puis il éclata de rire.
« Alors ça m'étonnerait. Mais je serais curieux d'entendre l'histoire. Donc, si je reviens ce soir avec 12 piécettes d'argent, je rachète sa liberté. » Et si je ne reviens pas ?
Ses yeux et son sourire s'étrécirent, et il demanda, plus à Yéma qu'au gardien,
« Quel prix est-ce qu'il vaudrait demain ?»
Son interlocuteur haussa les épaules.
« Ce qu'il rapporterait. Les nouveaux sont en général vendus à l'encan. Parfois, ils ont de la famille ou des amis prêts à racheter leur liberté, ou bien des ennemis qui tiennent à les avoir comme esclaves. » Les enchères peuvent être féroces et amusantes aussi quelquefois.
Le gardien avait bien remarqué le petit jeu de Torg et il s'y prêtait.
Vous pouvez attendre demain pour le racheter. Vous y gagnerez peut-être une pièce ou deux. Ou bien vous devrez débourser davantage qu'aujourd'hui. Mais le gosse sera marqué du sceau du gouverneur. Son père ou vous pourrez l'affranchir ensuite, naturellement. Mais il devra porter un tatouage à votre emblème et un document ou un anneau prouvant qu'il est libre.
« Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement effacer le tatouage au fer rouge ?»
demanda Torg sans ciller. Il scrutait Yéma, espérant voir s'afficher de la peur sur ses traits. Mais le jeune garçon resta impassible. Torg n'oserait jamais aller aussi loin. Cette conversation n'était qu'un nouvel exemple des moqueries cruelles dont il raffolait. Si sa victime manifestait la moindre crainte, le lieutenant continuerait de plus belle. Aussi, Yéma détourna-t-il le regard comme s'il ne s'intéressait plus à lui ni à ses propos.
« Il est illégal d'effacer un tatouage d'asservissement !» déclara le gardien d'un ton grave. Toute personne portant une trace de cautère sur la pommette gauche est considérée comme un esclave en fuite et dangereux. S'il se faisait prendre, le gamin serait ramené ici. Et on lui retatouerait le sceau du gouverneur sur la figure.
Torg secoua la tête d'un air apitoyé, mais il avait un sourire mauvais.
« Quel dommage d'abîmer un si joli minois !»«
Bon, on continue »
fit-il en se désintéressant brusquement de Yémin et en indiquant les esclaves qu'il n'avait pas encore examinés. Le gardien fronça les sourcils.
« Vous voulez que j'envoie un coursier pour annoncer à votre associé où est son fils ?»«
Non, ne vous dérangez pas. Je m'occuperai de mettre son père au courant. Il va pas être content. »«
Et maintenant parlons de cette femme. Est-ce qu'elle a un talent ou une formation particulière ?»
Il avait posé la question d'une voix pateline qui en faisait une plaisanterie cruelle aux dépens de la vieille accroupie devant lui. Yémin resta tremblant dans son box. La colère qu'il sentait bouillonner en lui menaçait de le faire éclater. Torg allait le laisser moisir dans cet abri, dans le froid et la crasse, aussi longtemps qu'il le pourrait. Puis il préviendrait son père et l'accompagnerait pour assister à la confrontation. Le cœur soudain glacé, Yémin songea que la colère de son père serait à la mesure de l'humiliation qu'il ressentirait. Or, Kyle Havre n'aimait pas être humilié, et il trouverait toutes sortes de moyens d'exprimer son déplaisir à son fils. Accablé, Yémin s'adossa au mur. Il aurait mieux fait de demeurer sur le bateau et de supporter son sort. Il restait moins d'un an d'ici à son 15e anniversaire. Ce jour-là, il se déclarerait indépendant de la volonté de son père et quitterait le navire au premier port venu. Sa stupide tentative de fuite n'aurait d'autre résultat que de lui faire paraître les mois plus longs. Pourquoi donc n'avait-il pas pris patience? Lentement, il se laissa glisser le long de la paroi jusqu'à se retrouver assis dans la paille, puis il ferma les yeux. Il préférait infiniment dormir que de songer à la future colère de son père.
« Sors d'ici !»
gronda Kenith encore une fois. Etta ne bougea pas, pâle, la bouche ferme. Elle tenait une cuvette pleine d'eau dans une main et des bandes de tissu étaient drapées sur son avant-bras. « Je pensais qu'un nouveau pansement serait plus agréable, » dit-elle sans faiblir. « Celui que tu as est raidi de sang séché et... »«
Dehors !»
rugit-il. Elle tourna les talons et s'enfuit, renversant de l'eau dans sa course. La porte de la cabine se referma derrière elle. Il était réveillé depuis le petit matin, et il avait l'esprit clair, mais il n'avait parlé à personne jusque-là. Il avait passé la plus grande partie de son temps à contempler la cloison en face de son lit, incapable de comprendre que sa chance ait pu lui faire faux bond. Comment cela avait-il pu lui arriver? Comment était-il possible que le capitaine Kenith subisse un tel coup du sort? Mais basta, il était temps, tant d'examiner ce que cette garce lui avait infligé, tant de reprendre le commandement. Oui, il était temps. Prenant appui sur ses poings, il se redressa en position assise. Sa jambe blessée frotta sur le drap et la souffrance fut si forte qu'il faillit s'évanouir. Il se remit à transpirer abondamment, et la sueur plaqua sur son dos sa chemise de nuit d'où montait une odeur aigre. Il était temps. Saisissant le drap de dessus, il le rejeta sur le côté et baissa le regard sur le bas de sa jambe endommagée par la putain. Il avait disparu. On avait soigneusement plié et épinglé le bas de sa chemise de nuit. Ses cuisses étaient toujours là, aussi hâlées et poilues qu'avant, mais l'une d'elles s'arrêtait net, juste en dessous du genou, le moignon recouvert d'un pansement brun sale. C'était impossible. Il tendit la main, mais ne put se résoudre à toucher le bandage. Au lieu de cela, il posa stupidement la main sur le tissu qui s'aplatit là où il aurait dû se tendre sur sa jambe, comme s'il avait espéré une illusion d'optique. Il poussa un petit gémissement aigu, puis retint sa respiration. Il ne laisserait plus échapper une seule plainte, pas le moindre gémissement. Il s'efforça de se rappeler l'enchaînement d'événements qui l'avaient amené à cette situation. Pourquoi avait-il fait monter à bord cette démente de garce? Et d'abord, pourquoi attaquer des transports d'esclaves? C'était dans les marchands qu'on trouvait de l'argent. Et eux, au moins, ne traînaient pas des troupeaux de serpents dans leur sillage, prêts à happer les jambes des gens. C'était la faute de Sorcor et d'État. Sans eux, ils seraient encore entiers. Du calme, du calme. Il fallait réfléchir sérieusement. Il était coincé là, dans sa cabine, incapable de marcher ou de se battre, et Sorcor et État étaient contre lui. Maintenant, restait à déterminer s'ils étaient de mèche et pourquoi ils l'avaient mutilé. Oui, pourquoi? Espérait-il lui voler le navire? Il reprit son souffle et tenta d'organiser ses pensées. Pourquoi m'a-t-elle fait ça? Une autre question lui vint aussitôt. Pourquoi ne pas m'avoir tué, tout simplement? Craignait-il que mon équipage ne s'en prenne à elle? Si c'était le cas, peut-être Sorcor et elle ne conspiraient-ils pas ensemble? Elle l'a fait pour te sauver la vie. Le petit visage à son poignet exprimait l'incrédulité. « Qu'est-ce qui te prend? Tu ne te souviens donc de rien? Un serpent t'a saisi par la jambe et il essayait de te jeter en l'air pour t'engloutir. Et t'as dû te couper la jambe. C'était le seul moyen d'empêcher le monstre de t'avaler tout entier. »
« J'ai quelques difficultés à croire cette histoire, » répondit Kenneth d'un ton ironique.
« Pourquoi ?»«
Parce que je connais Eta. Voilà pourquoi. »«
Moi aussi. Et voilà pourquoi ta réponse est absurde, » fit le petit visage d'un ton enjoué.
« Tais-toi !»
Faisant un effort sur lui-même, Kenneth regarda le moignon bandé.
« Comment cela se présente-t-il »
demanda-t-il à mi-voix.
« Eh bien, pour commencer, il te manque le bas de la jambe, » fit la mulette sans la moindre compassion. « C'est le coup de hache d'État qui a fait le travail le plus propre. Le serpent, lui, t'avait à la fois mâché et rongé les muscles et les os comme un acide. Ta chair ressemblait à du suif fondu. Ce qui brunit ton pansement est en partie du sang, mais surtout du pu. »
« Ah, tais-toi !»
fit Kenneth d'une voix défaillante. Il observa le bandage maculé et raidi de sani séché en se demandant ce qu'il cachait. On avait glissé en dessous un linge plié, ce qui n'avait pas empêché une tache ocre de s'étendre sur le drap fin et propre. C'était répugnant. Le petit démon lui adressa un sourire sarcastique.
« C'est toi qui as demandé à savoir ?»
Kenneth inspira profondément et cria «
Sorcor !»
Presque aussitôt, la porte s'ouvrit à la volée, mais ce fut Eta qui apparut, en larmes et l'air affolé. Elle se précipita vers lui.
« Oh, Kenneth, tu as mal !»«
Je veux Sorcor !»
fit-il, et il eut lui-même l'impression d'entendre un enfant trop gâté. La vaste carrure du lieutenant s'encadra dans la porte. À la grande consternation de Kenneth, c'est d'un ton aussi empreint de sollicitude que celui d'État qu'il demanda
« Je peux faire quelque chose pour vous, capitaine ?»
Ses cheveux indisciplinés étaient dressés en l'air comme s'il les avait tirés à pleine main, et son teint était jaunâtre sous ses cicatrices et son hâle. Kenneth essaya de se rappeler pourquoi il l'avait appelé. Il baissa les yeux sur les taches immondes qui maculaient son lit.
« Je veux qu'on me nettoie ça !»
Il s'efforça de prendre un ton ferme, comme s'il parlait d'un pont mal tenu.
« Qu'un homme mette de l'eau à chauffer pour un bain, et qu'on me sorte une chemise propre !»
Il regarda Sorcor, vit l'expression incrédule peinte sur ses traits, et se rendit compte qu'il le traitait davantage comme un valet que comme son second.
« Tu comprends qu'il est important que je soigne mon aspect quand j'interrogerai les prisonniers. Il n'est pas question qu'ils voient une épave mutilée au milieu de draps sales et froissés. »
« Les prisonniers ?» fit Sorcor hébété.
« Les prisonniers !» répéta Kenneth d'un ton ferme. « J'avais ordonné qu'on épargne 3 hommes, n'est-ce pas ?»«
Oui, commandant, mais c'était... »
« Et 3 hommes ont bien été épargnés pour que je les interroge, n'est-ce pas ?»«
J'en ai gardé un, » avoua Sorcor gêné. « Ou du moins ce qu'il en reste. Votre dame ne lui a pas fait de cadeau. »«
Comment ?»«
C'est sa faute, »
gronda tout bas Etta comme un faux furieux.
« C'est sa faute si tu es blessé. »
Ses yeux n'étaient plus que 2 fentes inquiètes.
« Bon, un seul, dis-tu ?»
fit Kenneth en s'efforçant de se ressaisir. Quelle créature avait-il introduite à bord de son navire ?«
Ne pense pas à ça pour le moment. Reprends le commandement. »
« Donne mes ordres. Quand je me serai rendu présentable, je veux qu'on m'amène le prisonnier ici, dans ma cabine. Je n'ai pas envie de voir l'équipage pour l'instant. Comment s'est passé le reste de la capture ?»
« Comme sur une mer d'huile, capitaine. Et ce coup-ci nous rapporte une petite prime en plus. »
Malgré l'angoisse gravée dans ses traits, Sorcor eut un grand sourire.
Ce transport-ci était un peu spécial. Il y avait le paquet habituel d'esclaves, mais à l'avant, on en a trouvé un groupe qui était un cadeau du gouverneur de Jamelia lui-même à un gros bonnet de Calcède. Une troupe de danseurs et de musiciens, avec leurs instruments, leurs fanfreluches et leurs attirails de maquillage. Et puis aussi des bijoux, plusieurs jolis petits tonnelets de brillants. Je les ai rangés sous votre couchette, capitaine. Et aussi toute une garde-robe de beaux vêtements, de la dentelle, quelques statuettes en argent et des eaux-de-vie en bouteille.
Un chouette butin. Pas très important, mais de la meilleure qualité.
Il jeta un rapide coup d'œil au moignon de Kenneth.
« Vous n'aimeriez pas goûter un peu de cette eau de vie ?»«
Un peu plus tard. Ces danseurs et ces musiciens, se montrent-ils dociles ? Comment prennent-ils cette interruption de leur voyage ?»«
Pourquoi ne les avait-on pas jetés par-dessus bord avec le reste de l'équipage ?»« Ils sont ravis, commandant. Ils ont été asservis parce que leur compagnie était endettée et que les propriétaires ont fait faillite. » Alors le gouverneur a ordonné qu'on saisisse aussi la troupe. C'est pas très légal, mais comme c'est le gouverneur, j'imagine que ça n'a pas dû trop le tracasser. Non, ils sont heureux comme des palourdes d'avoir été capturés par des pirates. Leur chef les a déjà mis au boulot, à faire des chansons et à inventer des danses pour raconter toute l'histoire. Et c'est vous le héros, naturellement.
Naturellement.
Des chansons et des danses.
Kenneth se sentit soudain pris d'une lassitude inexplicable.
« Nous sommes à l'ancre. Où et pourquoi ?»«
Je ne connais pas le nom de la baie, mais il n'y a pas trop de fond, et le Cicerne prend l'eau depuis pas mal de temps déjà. Ça faisait un moment que les esclaves du bas de Cale baignaient dedans. » J'ai pensé qu'il valait mieux le mouiller là où il ne pourrait pas trop s'enfoncer, le temps qu'on lui bricole des pompes en plus. Ensuite, je me suis dit qu'on pourrait aller à Anse-au-Taureau. C'est pas les bras qui nous manquent pour actionner les pompes pendant le trajet.
Pourquoi Anse-au-Taureau ?
Demanda Kenneth. Sorcor haussa les épaules.
Il y a une bonne grève en pente douce pour tirer le navire au sec.
Il secoua la tête.
« Il va falloir pas mal de travail avant qu'il puisse reprendre la mer. Et puis, le coin a déjà été attaqué 2 fois par des chasseurs d'esclaves cette année. Je pense qu'on nous y fera bon accueil. »«
Là, tu vois ?»
fit Kenneth d'une voix faible, et il sourit à part lui. Sorcor avait raison. Il avait bien retenu ses leçons. Un navire laissé sur place... Quelques mots persuasifs, et il pouvait gagner une nouvelle bourgade à sa cause. Que pourrait-il déclarer aux autochtones? Si les îles des pirates obéissaient à un chef unique, que les chasseurs d'esclaves craindraient, les gens pourraient vivre. Il fut pris d'un tremblement. Etta se précipita.
« Rallonge-toi, rallonge-toi. Tu es blanc comme un linge. Sorcor, occupez-vous de ce qu'il a demandé, le bain et le reste. Ah, et puis, apportez-moi la cuvette et les bandages que j'ai laissés sur le pont dehors. Je vais en avoir besoin. »
Atterré, Kenneth l'écoutait donner des ordres à son second sans le moindre égard pour le protocole.
« Sorcor sait faire les pansements ? »
fit-il méfiant.
« Je suis plus doué que lui pour ça, »
répliqua-t-elle avec assurance.
« Sorcor ! »
fit-il, mais le second eut l'audace de l'interrompre.
« C'est vrai, commandant, elle sait bien y faire. Elle a soigné nos gars après la dernière bagarre, et elle a fait du bon boulot. Je vais m'occuper du bain. »
Et il sortit, laissant Kenneth seul et impuissant face à la gueuse assoiffée de sang.
« Et maintenant ne bouge pas, » lui dit-elle, comme s'il était en état de s'enfuir. « Je vais glisser du rembourrage sous ta jambe pour éviter de tremper tout ton lit. Ensuite, quand nous aurons fini, nous te mettrons des draps propres. »
Il serra les dents, plissa les yeux et réussit à ne pas laisser échapper la moindre plainte quand elle souleva son moignon et le reposa sur un tas de chiffons pliés.
« Je vais mouiller ton vieux pansement avant de le défaire. Il collera moins à la plaie ainsi.
« Tu as l'air de bien t'y connaître ?»
fit-il, les dents serrées.
« Les putains se font souvent battre par les clients, » répondit-elle d'un ton prosaïque. « Si les femmes d'un bordel ne s'entraident pas, qui va s'occuper d'elles ?»«
Et je dois confier le soin de ma blessure à celle qui m'a coupé la jambe ?»
demanda-t-il d'une voix glacée. Elle se pétrifia. Puis, telle une fleur qui se fane, elle se laissa tomber à genoux près du lit et, livide, elle se pencha jusqu'à ce que son front repose sur le bord du matelas.
« Je n'avais pas d'autre moyen de te sauver. S'il l'avait fallu, ce sont mes deux mains que j'aurais tranchées au lieu de ta jambe. »
Kenneth trouva cette déclaration tellement absurde qu'il resta un instant sans voix, au contraire de l'amulette.
« Le capitaine Kenneth peut être un malotru sans cœur, mais je te l'assure, je sais que tu as agi au mieux pour préserver ma vie. Je te remercie de ton geste. »
En Kenneth, l'effarement le disputait à la fureur. L'amulette s'était trahie. Il plaqua aussitôt la paume sur le bracelet, mais sentit des dents minuscules lui mordre méchamment la peau. Il retira vivement sa main avec un hoquet de douleur à l'instant où Etta levait vers lui un visage baigné de larmes.
« Je comprends, » dit-elle d'une voix enrouée. « Un homme doit jouer de nombreux rôles et il est sans doute nécessaire que le capitaine Kenneth se montre malotru et sans cœur. »
Elle haussa les épaules avec un sourire défaillant.
« Je n'en veux pas au Kenneth qui est à moi. »
Le spectacle de son nez rouge et de ses yeux larmoyants était pénible à regarder. Mais le pire était qu'elle le crut capable de la remercier parce qu'elle lui avait tranché la jambe. Il maudit intérieurement la sournoiserie et la malveillance de son porte-bonheur qui l'avait placé dans une telle situation, tout en se raccrochant à l'espoir ténu qu'aux oreilles d'État, ses propos étaient sortis de ses lèvres.
« N'en parlons plus !» fit-il précipitamment. « Arrange du mieux possible les dégâts que ma jambe a subis. »
L'eau dont elle se servit pour mouiller le pansement était tiède comme du sang, et il ne sentit quasiment rien tant qu'elle n'eut pas entrepris de retirer à gestes précautionneux les couches de toile et de charpie. Alors, il tourna la tête vers la cloison jusqu'à ce que la périphérie de son champ de vision se brouille et qu'il se couvre de transpiration. Il ne s'aperçut du retour de Sorcor qu'au moment où le second lui tendit une bouteille d'eau-de-vie débouchée.
« Un verre, peut-être ? »
fit Kenneth avec hauteur. Sorcor avala sa salive.
« Vu l'état de votre jambe, je pensais que ça irait plus vite au goulot. »
Si l'homme n'avait pas prononcé ces paroles, Kenneth eût peut-être été capable de se retenir de jeter un coup d'œil à son moignon. Mais alors que le marin fouillait maladroitement dans un buffet à la recherche d'un récipient convenable,
Kenneth ne put que tourner lentement la tête vers l'emplacement où se trouvait d'habitude sa jambe musclée. Le pansement souillé avait atténué le choc. Voir sa jambe s'achever par un paquet de tissu maculé était une chose. La découvrir tranchée, les chairs mâchées et rongées, en était une autre. On eût dit que le moignon avait été en partie cuit. Kenneth sentit son estomac se soulever, et une bile amère lui brûlait la gorge. Il la ravala, refusant de s'humilier devant la femme et l'homme. Sorcor lui tendit un verre d'une main tremblante. C'était ridicule. Le second avait eu affaire à des blessures autrement plus graves que celles qu'il avait aujourd'hui sous les yeux. Kenneth prit le verre et engloutit l'alcool d'une seule lampée. Puis il prit une inspiration hachée. Après tout, peut-être sa chance avait-elle tenu dans un sens étrangement contourné. Au moins, la putain savait comment le soigner. À cet instant, Etta le dépouilla de ce maigre réconfort en déclarant à mi-voix à Sorcor « C'est un vrai massacre. Il faut lui trouver un guérisseur, et vite !» Kenneth attendit le temps de 3 respirations, puis il agita son verre à l'attention de Sorcor, mais quand l'homme voulut le remplir, le capitaine pirate s'empara de la bouteille. Une goulée, 3 respirations. Une autre goulée, 3 nouvelles respirations. Non, il était temps. Il fallait s'y mettre sans plus attendre. Il se redressa de nouveau en position assise, regarda la chose qui avait été sa jambe, puis défit le nœud qui maintenait sa chemise de nuit fermée au niveau de sa gorge. « Où est l'eau pour mon bain ? » fit-il avec brusquerie. « Je n'ai nulle envie de macérer dans ma propre puanteur. Etta, tu t'occuperas de ma blessure quand j'aurai fait ma toilette. Sors-moi des habits propres et des draps pour le lit. Je tiens à être lavé et vêtu convenablement pour interroger mon prisonnier. » Sorcor lança un regard en biais à Etta avant de répondre à mi-voix.
« Je vous demande pardon, commandant, mais un aveugle ne verra pas comment vous êtes habillé. »
Kenneth ne sia pas. « Qui est notre prisonnier ?»«
Le capitaine Reft du Cicerne. Etta nous a demandé de le repêcher. »
« Il n'a pas perdu la vue pendant le combat. Il était indemne quand il est tombé à la mer. »
« Oui, capitaine. »
Et Sorcor jeta un nouveau coup d'œil oblique à Etta. De là venait donc l'attitude à la fois méfiante et déférente du second à l'égard de sa putain. C'était presque amusant. Le second traçait une nette frontière entre démembrer un homme au combat et voir ce même homme torturé par la prostituée. Kenneth ignorait que Sorcor fût sensible à de telles subtilités.
« Un aveugle ne verrait peut-être pas comment je suis vêtu, mais moi, si !»
fit Kenneth.
« Exécute tes ordres !»
À cet instant, on frappa à la porte. Sorcor l'ouvrit et Opal entra, portant 2 seaux d'eau fumante. Il les posa sur le plancher, sans oser lever les yeux vers Kenneth et encore moins lui adresser la parole.
« Maître Sorcor, lieutenant ?» « Les musiciens, ils veulent faire de la musique sur notre pont pour le capitaine, et ils ont dit que je devais faire appel à votre bonne volonté. Et... »
Le jeune garçon plissa le front, s'efforçant de se rappeler les termes inhabituels.
« Ils veulent exprimer leur extrême gratitude. Enfin, quelque chose comme ça. »
Kenneth sentit un mouvement infime sur son poignet, et il baissa le regard sur le porte-bonheur niché au creux de ses bras croisés. Le visage miniature faisait de frénétiques grimaces d'assentiment et d'enthousiasme.
Cette sale petite traîtresse d'amulette paraissait croire que Kenneth allait prêter attention à ses conseils.
Kenneth vit aussi ses lèvres former des mots.
« Commandant !»
fit Sorcor d'un ton déférent.
L'intéressé feignit de se gratter le crâne afin d'amener le porte-bonheur à hauteur de son oreille.
« Un roi doit se montrer gracieux envers ses sujets reconnaissants. alors qu'un présent refusé peut endurcir le cœur de celui qui l'offre. »
Kenneth estima le conseil valable, malgré qu'il en eût.
« Réponds-leur que ce serait un grand plaisir pour moi, »
dit Kenneth en s'adressant directement à Opal.
« Aussi rude que soit mon existence, je ne suis pas homme à dédaigner les satisfactions raffinées des arts. »«
Sar !»
s'exclama le mousse, blasphémant d'admiration, puis il acquiesça, rouge d'orgueil, devant l'attitude de son commandant. Un serpent venait de lui arracher la jambe, mais il trouvait encore le temps de s'intéresser à la culture.
« Je vais leur dire, capitaine !» Et il sortit vivement en répétant « Rude existence, satisfaction raffinée !»
Dès que le garçon eut quitté la cabine, Kenneth se tourna vers Sorcor.
« Rends-toi auprès du prisonnier et donne-lui à boire et à manger pour le remettre sur pied. Etta, mon bain, je te prie !»
Une fois le second sorti, la femme aida Kenneth à ôter sa chemise de nuit. Puis elle le lava à l'aide d'une éponge, à la manière chalcédienne. Il avait toujours méprisé cette façon de faire sa toilette, qui selon lui n'avait d'autre résultat que d'étaler la sueur et la crasse sur le corps au lieu de le nettoyer. Mais Etta fit si bien qu'il finit par se sentir vraiment propre. Et tandis qu'elle s'occupait des aspects intimes de sa toilette, il songea que peut-être une femme pouvait se montrer utile à un homme de plus d'une façon. Le nettoyage et le bandage de sa blessure restèrent néanmoins assez pénibles pour qu'elle dût ensuite essuyer à nouveau son front, sa poitrine et son dos couvert de transpiration. Une douce musique commença de se faire entendre, mélange léger de cordes, de clochettes et de voix de femmes. C'était, de fait, très agréable. Pragmatique, Etta déchira la couture extérieure de la jambe d'un pantalon afin de pouvoir l'enfiler à Kenneth presque sans douleur. Après quoi, elle ragrafa le tissu. Elle boutonna sa chemise, puis le peigna et lui tailla la barbe aussi efficacement qu'un valet. Enfin, supportant plus de la moitié de son poids, elle l'aida à s'asseoir dans son fauteuil avant de changer sa literie. Kenneth n'avait jamais soupçonné qu'elle possédât tant de talent. À l'évidence, il avait sous-estimé son utilité. Quand il fut convenablement vêtu et installé, elle disparut un instant pour revenir avec un plateau garni. Ce n'est qu'en sentant l'odeur de soupe chaude et de pain léger qu'il prit conscience de la faim qui le tenaillait. Une fois apaisés les tiraillements les plus violents de son estomac, il reposa sa cuillère et demanda à mi-voix
« Qu'est-ce qui t'a inspiré de t'en prendre à mon prisonnier ?»
Elle poussa un petit soupir. « J'étais folle de rage, » répondit-elle en secouant la tête. « Folle qu'il t'ait fait du mal, qu'il m'ait obligée à te faire du mal. Je me suis jurée de t'obtenir une vive nef, même si je devais y laisser la vie. C'était manifestement à ce sujet que tu voulais interroger les prisonniers. Aussi, pendant les moments où j'étais épuisée d'être restée à ton chevet mais incapable de trouver le sommeil, j'allais les voir.
« Ils étaient plusieurs ?»«
Il y en avait trois, à l'origine. » Elle haussa les épaules avec désinvolture. « Je crois avoir les renseignements que tu désirais. Je les ai vérifiés et revérifiés avec le plus grand soin. Mais j'ai tout de même gardé un des prisonniers vivants, car j'étais sûr que tu voudrais avoir confirmation de ces informations de vive voix.
Une femme aux nombreux talents et intelligente de surcroît. Kenneth devrait sans doute la tuer sans tarder.
Et qu'as-tu appris ?
Ils n'ont connaissance que de deux vives nefs. La première est un navire marchand, l'Ophélie. Elle a quitté Jamelia avant eux, mais il lui restait du fret de Terrilville à vendre, donc elle effectuera probablement des haltes sur son trajet vers le nord. Etta haussa les épaules. Elle était peut-être devant eux, peut-être derrière, il est impossible de le savoir. La seule autre vive nef qu'ils aient vue dernièrement était ancrée à Jamelia. Elle est entrée au port la veille de leur départ. Manifestement, il n'était pas prévu qu'elle reste longtemps. On avait déchargé ses cales et on les réaménageait pour embarquer une cargaison d'esclaves à destination du Nord, en Chalcède.
Employer une vive nef pour ce genre de trafic ne rime à rien !
S'exclama Kenneth furieux,
Ils t'ont menti. »
Encore une fois, Etta haussa les épaules.
« Ce n'est sans doute pas impossible, mais alors, ils m'ont très bien menti, séparément et à des moments différents. »
Avec le drap taché du lit, elle tamponna la chemise trempée de sueur du pirate.
« Moi, ils m'ont convaincu. »
« Il n'y a rien de difficile à convaincre une femme. Et c'est tout ce qu'ils t'ont dit ?»
L'effronté eut l'audace de lui adresser un regard glacial.
« Le reste n'était aussi que mensonge, probablement. »«
J'aimerais tout de même l'entendre. »
Elle soupira.
« Ils ne savaient pas grand-chose, surtout des rumeurs. Leur navire et la Vive-Nef ne sont restés ensemble au port qu'une journée. La Vivacia appartient à une famille de marchands de Terrilville du nom de Havre. Elle va gagner la Calcède aussi vite que possible par le passage intérieur. » Le commandant espérait acheter principalement des artisans et des ouvriers qualifiés, mais il embarquera peut-être aussi de la simple main-d'œuvre pour faire son lest. C'est un homme appelé Torg qui s'occupait de tout, mais ce n'était apparemment pas le capitaine. Le navire vient de s'éveiller. C'est son premier voyage conscient.
Kenneth secoua la tête.
Havre n'est pas un nom de marchand.
Etta eut un geste d'impuissance ironique.
« Tu avais raison. Ils m'ont menti. »
Elle détourna le regard et contempla fixement la cloison, les traits de marbre.
« Je m'excuse d'avoir gâché ton interrogatoire. »
Elle devenait rebelle.
Si Kenneth avait eu ses deux jambes, il l'aurait saisi et jeté à plat dos sur le lit pour lui rappeler sa place.
En l'occurrence, il allait devoir la flatter. Il s'efforça de trouver une gentillesse à lui dire afin de la dérider. Mais le lancinement ininterrompu de sa blessure s'était soudain mué en une violente souffrance. Il n'avait plus qu'une envie. S'allonger, se rendormir et tout oublier. Et pour cela, il allait devoir demander à Etta de l'aider.
« Je suis impotent. Je ne peux même pas regagner mon lit tout seul !»
fit-il d'un ton amer. Dans un éclair de franchise rare chez lui, il ajouta
« Je déteste que tu me vois ainsi !»
Dehors, la musique changea. Une puissante voix d'homme entonna un chant à la fois énergique et tendre. Kenneth pencha la tête pour mieux entendre les paroles, étrangement familières.
« Ah ! » fit-il tout bas. « Ça me revient. De Kitris à sa maîtresse. Un morceau charmant. »
Il chercha de nouveau un compliment à faire à Etta, mais rien ne lui vint.
« Tu peux te rendre sur le pont pour écouter la musique, si tu le souhaites, » dit-il. Il s'agit d'un poème très ancien, tu sais.
Sous l'effet de la douleur, les bords de son champ de vision se mirent à trembler et ses yeux à larmoyer.
« L'as-tu déjà entendu ? »
demanda-t-il en s'efforçant de conserver une voix ferme.
« Oh, Kenneth !»
Elle secoua la tête, soudain et inexplicablement repentante. Elle s'approcha de lui, les larmes aux yeux.
« Ce chant me paraît plus beau ici que partout ailleurs. Pardonne-moi. Je me montre parfois garce et sans cœur, et te voilà blanc comme un linge. Allons, laisse-moi t'aider à te recoucher. »
Et elle joignit le geste à la parole, aussi doucement qu'elle le put. Après quoi, elle bassina le visage de Kenneth à l'aide d'une éponge imprégnée d'eau fraîche.
« Non !»
protesta-t-il faiblement.
« J'ai froid. Trop froid. »
Elle tira délicatement une couverture sur lui, puis s'allongea près de lui, du côté de sa jambe valide. La chaleur de son corps était agréable, mais la dentelle de son jabot lui grattait la joue.
« Déshabille-toi, » fit-il. « Tu me tiens plus chaud quand tu es nu. »
Elle eut un rire bref, à la fois ravie et surprise.
« Qui m'a fichu un homme pareil ? s'exclama-t-elle d'un ton de reproche, mais elle se leva. On frappa à la porte.
« Qu'y a-t-il ? »
répondit Kenneth, revêche. Le ton de Sorcor parut étonné.
« Je vous amène le prisonnier, capitaine. »
C'était trop de fatigue.
« Je n'en veux pas, »
fit Kenneth d'une voix faible.
« Etta l'a déjà interrogé. Je n'ai plus besoin de lui. »
La jeune femme laissa tomber ses habits, puis elle s'introduisit délicatement dans le lit, se glissant, toute chaude, contre le pirate. Il se sentit épuisé tout à coup. Elle avait la peau douce et tiède, comme un baume.
« Capitaine Kenneth !»
Le ton de Sorcor était à la fois insistant et inquiet.
« Oui ?»
Le second ouvrit brusquement la porte. Derrière lui, deux matelots soutenaient ce qui restait du commandant du Cicerne. Ils regardèrent leur capitaine, puis demeurèrent bouche bée. Kenneth se tourna pour voir ce qui les stupéfiait à ce point. À ses côtés, Etta tenait fermement la couverture remontée au-dessus de la légère courbure de sa poitrine. La musique était plus forte maintenant que la porte était ouverte. Kenneth observa le prisonnier. Etta ne s'était pas contentée de lui crever les yeux. Elle l'avait mutilé morceau par morceau. C'était répugnant. Et ce n'était pas le genre de tableau que Kenneth avait envie de contempler pour l'instant, mais il devait maintenir les apparences. Il s'éclaircit la voix. Autant en finir tout de suite.
« Prisonnier, avez-vous dit la vérité à mon ami ?»
L'épave qui se tenait entre les deux matelots leva un visage ravagé et le tourna en direction de la voix.
« Je le jure, je l'ai répété 100 fois. Pourquoi mentirais-je »
L'homme se mit à sangloter bruyamment et ses narines tranchées rendirent un son étrange quand il renifla.
« Je vous en supplie, noble sire, ne la laissez plus s'en prendre à moi. Je lui ai dit la vérité, je lui ai dit tout ce que je savais. »
Kenneth n'eut pas envie de se tracasser davantage. À l'évidence, l'homme avait menti à Etta et il continuait à mentir. Il ne servait à rien. La douleur faisait comme une volée de marteau dans le crâne de Kenneth.
« Je suis occupé. »
Il ne voulait pas avouer que le simple fait de prendre un bain et de s'habiller l'avait épuisé.
« Charge-toi de lui, Sorcor, comme bon te semblera. »
Le sens de son ordre était sans équivoque, et le prisonnier se mit à hurler.
« Ah, et puis ferme la porte en sortant !»
termina Kenneth. Alors que la porte se rabattait sur les marins et le prisonnier gémissant, il entendit un de ses hommes déclarer
« Sar, il s'envoie déjà la fille. Il n'y a rien qui arrête le capitaine Kenneth, c'est à croire. »
Le pirate se rapprocha légèrement de la chaleur du corps d'Etta. Ses yeux se fermèrent et il sombra dans un profond sommeil.